liberté est un mot que le rêve humain alimente. Il n'existe personne qui l'explique et personne qui ne le comprenne. Les êtres humains sont des animaux mammifères, bipèdes, qui se distinguent des autres mammifères, comme les baleines, ou bipèdes, comme la poule, principalement par deux caractéristiques. Le téléencéphale hautement développé et le pouce préhenseur. Le téléencéphale hautement développé permet aux êtres humains d'emmagasiner des informations, de les mettre en relation, de les ordonner et de les comprendre. Le pouce préhenseur permet aux êtres humains un mouvement de pince des doigts. Celui-ci, à son tour, permet une manipulation de précision. Le téléencéphale hautement développé, allié à la capacité de faire un mouvement de pince avec les doigts, donna à l'être humain la possibilité de réaliser d'innombrables améliorations sur sa planète. Entre autres, de cultiver des tomates.
Des corps, de la bricole et un de ces merdiers.
Sur Radio Piquet.
Donc, qu'est-ce qui s'est passé aux origines du monde? Eh bien, nous avons affaire à une espèce qui commence qui a dotée de la pensée et de la parole, très peu nombreuse à l'époque dont je parle, c'est-à-dire il y a 200 000 ans, on n'était peut-être pas plus de 10 à 15 000 individus en train d'errer lamentablement sur la terre africaine dans des petites régions. Et donc, que se passe-t-il pour ces petits groupes de chasseurs-collecteurs qui se posent des questions sur eux-mêmes et sur leur entourage? Ils observent que toutes les espèces sont différentes les unes des autres, mais qu'elles sont parcourues par une même différence, toujours la même, il y a du mâle et du femelle. Ils observent que, curieusement, les femelles se reproduisent à l'identique, mais que les mâles, non, ne peuvent pas, avec leur propre corps, faire des corps semblables à eux-mêmes. Mais qu'en revanche, les femelles, elles font de l'identique et du différent. C'est-à-dire, elles font des filles et des garçons. Il se trouve qu'il y a une troisième observation, qui est celle de la transmission de substances. C'est-à-dire qu'ils observent aussi que pour que les femelles aient des enfants, il faut qu'il y ait une transmission spermatique, un passage d'une substance du mâle à la femelle. Et le résultat de la cogitation autour de cette question, à quoi servent les mâles dans la reproduction de l'espèce, si les femmes avaient la capacité toutes seules de faire de l'identique et du différent, ben la réponse à cette question, c'est non, les femmes n'ont pas la capacité de le faire toutes seules, ce sont les mâles qui, par le coït, mettent les enfants ou les fils dans le corps des femmes, et donc le corps des femmes est quelque chose qui, par la nature, par les dieux, par les génies, par les ancêtres, on ne sait trop quoi, mais en tout cas, qui est mis à la disposition des hommes pour qu'ils puissent y cultiver leurs propres fruits. Et c'est à partir de cette constatation qui fait du corps des femmes une propriété à l'usage du corps des hommes et donc un objet d'échange que vont s'instaurer toute une série de règles du jeu social qui est fondée sur la prohibition de l'inceste, qui font que les mâles s'interdisent de toucher à leurs filles et à leurs sœurs pour les échanger contre les mêmes filles et sœurs des mâles d'autres groupes consanguins, ce qu'on appelle l'exogamie, l'obligation de se marier à l'extérieur. Et effectivement, dans le monde entier, ce sont toujours des hommes qui échangent des femmes entre eux. Vous ne trouverez pas une société où ce sont des femmes qui échangent des hommes entre elles.
1, 2, 3, 1, 2, 3...
Achetez. l'idée du matriarcat est un mythe au sens plein du terme. Et il se trouve que les mythes, bon, ils ont pour fonction, disons, pour une de leurs fonctions, si ce n'est la fonction première, c'est de justifier l'état du monde dans lequel on vit par un état antérieur qu'il a fallu renverser, qui était mauvais, qu'il a fallu donc renverser. Il y avait plein de mythes de cette sorte. Mais la réalité vraie, c'est qu'il n'y a jamais eu de société qu'on appelle de matriarcat, c'est-à-dire où le pouvoir, ce qui serait l'inverse du patriarcat, où le pouvoir est aux mains des hommes, il n'y a jamais eu de société où le pouvoir était aux mains des femmes. Ça, c'est vrai. Ce qui existe et qui a alimenté cette rumeur dont vous parlez, mais qui est une rumeur journalistique, pas une rumeur scientifique, c'est... c'est qu'il existe des sociétés qu'on appelle de droit matrilinéaire, où la filiation se transmet par les femmes. Mais ça ne veut pas dire pour autant que les femmes y ont le pouvoir. Ça veut dire que dans ces sociétés, les hommes l'ont, mais non pas en tant que père et que mari, mais en tant que frère et que oncle maternel.
Lance un cotillon à Sylvie. Elle a pas l'air de s'amuser. Oh, elle l'a pris en plein dans le nez. C'est dingue, ça la fait pas marrer. Faudrait la forcer à danser. On n'est pas tous les jours mariés. Ah, chouette, blala, danse du tapis. Quelle belle liste de mariage. Un autocuiseur, un aspirateur, un fer à vapeur. Du batifolage, des draps en nylon et des fonds de champ. C'est tonton Amédée qui les a achetés.
Donc les hommes échangent des femmes comme capacité reproductrice entre eux. S'ensuit également toute une série de règles comme celle de l'institution du mariage pour rendre stable cette union entre groupes qui est nécessaire à la reproduction de l'espèce. Et puis des modes d'exercice qui, sans qu'il y ait de coercition brutale, parce que tout le système que je vous décris, c'est un système de pensée et qui n'implique pas nécessairement de violence, mais par la suite, il est possible que la violence soit intervenue pour qu'il soit reproductible de façon récurrente. Et quels sont les modes qui vont être utilisés? Ils vont être toujours les mêmes. Ce sont l'impossibilité pour les femmes de disposer librement de leur corps. Et rappelez-vous que c'est très récent dans notre histoire, y compris française, que les femmes ne soient pas données en mariage par les membres masculins de leur famille. Bon, au XIXe siècle encore, les filles étaient mariées sans qu'on leur demande véritablement leur choix. Bon, donc les femmes ne peuvent pas disposer du libre choix de leur conjoint, du libre choix du nombre de leurs enfants et du moment où les avoir, parfois du libre choix de se soigner, et c'est encore vrai pour une partie de l'humanité. Donc elles ne sont pas des individus dotés de droits juridique au même titre que les hommes. Ça, c'est une première méthode. La deuxième, c'est l'impossibilité d'accéder au savoir. Parce que le savoir est considéré ce qui ouvre au libre arbitre, à la critique et à l'émancipation. Et là aussi, les filles payent un lourd tribut pour encore à l'heure actuelle dans cet accès au savoir. Et le troisième, et c'est que l'on voit encore, y compris en Occident, c'est l'impossibilité, ou encore chez nous la très grande difficulté, d'accéder aux situations de pouvoir. Et ces trois manque de liberté par rapport à l'usage de son propre corps, manque d'accès au savoir, manque d'accès au pouvoir, sont liés entre elles, par une cordelette extrêmement serrée. Et cette cordelette extrêmement serrée que l'on va trouver, qui est nécessaire et qu'on trouve dans tous les systèmes de pensée de toutes les sociétés du monde, elle est faite de ces stéréotypes, jugements de valeur négatifs, clichés, préjugés, que l'on considère généralement comme l'écume des choses, mais qui est en fait la traduction par le langage fondamentale des racines de cette valence différentielle des sexes.
C'est l'heure de la jarretière à Sylvie. Eh, c'est trop bas, faut la remonter. C'est le moment d'en profiter. Au
oh ça y est, c'est l'oncle à m'aider. Pas le temps de jouer, c'est déjà gagné. Il gêne pas pour la tripoter. Ben qu'est-ce qu'elle a? Elle chiale, Sylvie.
Pourtant une belle liste de mariage.
Un autocuiseur, un aspirateur, un fer à vapeur.
Et pour ce qui est du batifolage,
des draps en nylon et des fils de cochon, c'est tonton Amédée qui les a achetés.
Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de différence entre les hommes et les femmes, ne serait-ce que la différence, la différence de sexe, bon, la différence sexuée qui fait que les corps sont différents, et qu'il s'ensuit toute une série de transformations physiques, pileuses. Il y a des données qui insistent sur cette différence qui existe entre le fait d'être mâle et le fait d'être femelle. Mais que cette différence porte également, cette fois-ci, sur des attributs qui sont de l'ordre de la cognition ou de l'émotion, non. Parce que sur le plan de la cognition et de l'émotion, nous sommes dotés des mêmes pouvoirs. Nous avons les mêmes capacités. De même que nous avons les mêmes organes internes. Mais on voudrait qu'il y en ait un du côté cérébral et du côté émotionnel. Dans les deux cas, non, on ne trouve pas cette différence. Elle a été cherchée partout, du côté cérébral. Dans le poids du cerveau, hein, ce qui est une totale erreur, dans l'organisation des circonvolutions, dans le passage entre l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit. On le cherche maintenant au niveau des synapses, enfin, on ne l'a jamais trouvé parce qu'il n'existe pas.
Bibi, si ça tenait qu'à moi, je te donnerais les capacités intellectuelles d'un garçon, mais c'est scientifique. Les mecs sont plus intelligents parce qu'ils ont une masse musculaire plus dense dans le cerveau.
Et moi, je pense être aussi plus intelligente que toi, même plus peut-être.
Ouais, ok, d'accord. T'es mignonne.
Oh, ça va, ne me fraternise pas.
Tu crois peut-être que je sais pas ce que je m'en veux dire? Je sais très bien ce que je m'en veux dire.
Ils se disputent l'Oscar du QI le plus élevé.
C'est le choc des titans, l'issue est incertaine.
Tu dois au moins reconnaître que Brittany a raison sur un point. Elle refuse de se conformer à l'image qu'il a d'elle.
Je peux savoir ce que tu entends par là.
Plaît-il?
Tu veux comparer Kevin et Brittany à toi et moi?
Ce qui existe, c'est des hormones et qui influent sur ce développement particulier des corps, mais qui ne sont pas suffisantes pour induire ni des idées, des intellects, ni des émotions radicalement différentes. Parce que par-dessus tout ça, agit nécessairement le libre arbitre. Ce qui est propre de l'humanité, c'est la capacité de penser, de choisir, de sortir, de réfléchir, d'avoir une idée prospective sur sa propre vie et surtout d'avoir du libre arbitre. Nos émotions, nous pouvons les contrôler. Bon, quand nous les laissons, leur laissons libre cours et qu'on les encourage, on crée des modèles. Si vous dites aux petits garçons que c'est bien de se battre à coups de poing, ils se battront à coups de poing. Et si vous dites aux petites filles que c'est mal, elles ne le feront pas. Mais ce n'est pas une question de plus d'hormones chez l'un et de moins d'hormones chez les autres, c'est une question de dressage. Dans des expériences de psychologie, on fait appel à des mères qui viennent avec leur bébé de 6 à 8 mois et on leur demande on voit les bébés tout seuls et on regarde s'ils sont capables de ramper Comment ils sont capables, de ramper et à quel degré sur une planche qu'on oriente vers le haut et vers le bas. Or, il apparaît qu'à cet âge-là, garçons et filles réussissent à peu près de la même manière. Bon. Et puis, on fait entrer les mères et on refait l'expérience, mais en demandant cette fois-ci aux mères de moduler leur action, de moduler eux-mêmes l'angle de la planche en fonction de ce qu'elles pensent que leurs enfants peuvent faire. Et l'expérience montre qu'elles augmentent les capacités de leur fils de 30% et les capacités de leur fille, elles les diminuent de 30% environ.
Écoutez, c'est-à-dire que les mères auraient en quelque sorte été le moteur d'une sélection naturelle.
Ça veut dire qu'elles deviennent le sélecteur aussi, l'opérateur d'un certain type de reproduction, d'un ordre tel qu'elles se l'imaginent, d'une plus grande vigueur et d'une plus grande capacité motrice des enfants mâles par rapport aux enfants de sexe féminin.
Sur la capacité d'abstraction. D'abstraction, où on dit que c'est seuls les garçons l'ont véritablement. On s'aperçoit que, à l'usage, c'est vrai, que les filles ferment leurs oreilles à des cours d'ingénierie parce qu'elles disent c'est pas pour nous, on n'est pas capable, les machines, ça ne nous intéresse pas. Et donc, si on leur présente un plan de machine à reproduire, elles se ferment, elles ne font pas bien le travail. Mais si on leur dit, voilà, il y a une épreuve de dessin, voilà un modèle, et vous allez le reproduire, la même machine, elle vous la reproduit très bien. Mais on leur a dit que c'était du dessin, et pas une machine, pas de l'ingénierie. Donc, c'est donc bien dans la tête et uniquement que ça se passe, parce qu'on les a dressées elles-mêmes à croire qu'elles n'en étaient pas capables.
Je comprends pas, moi, l'art abstrait. Pourquoi regarder des visages tout tordus, qui ont six yeux mal placés, quand on peut acheter des portraits de chatons tout à fait adorables par Internet, c'est vrai? Bon, c'est pas que je gaspillerais de l'argent pour des tableaux, bon, ça non. Je veux dire, bon, il était vraiment gentil, mignon et tout, tu vois, mais il mesurait que 6 cm de plus que moi, et toute ma collection de chaussures est basée sur le principe que je sors avec des garçons qui ont 10 cm de plus que moi ou davantage.
Bon, prenez toutes les sociétés du monde, vous n'en trouverez pas une seule où l'idéal pour un couple, c'est que l'homme soit plus grand que la femme. Et partout... L'homme doit toujours être plus grand que la femme. Oui, c'est ça, oui. Et chez nous, c'est pareil. Une femme préfère avoir un partenaire plus grand qu'elle et un homme a une partenaire plus petite que lui. Bon. Ce qui suppose, en règle générale, que les femmes soient plus petites que les hommes. Ce qui est vrai. Et moins lourde, moins corporellement bâtie, moins physiquement bâtie, moins lourde, moins puissante que les hommes. Ce qui est vrai. Mais la question qui est posée, est-ce que c'est naturel? Et il y a eu des travaux menés notamment par une grande recension de tout ce qui a pu être écrit sur ce dimorphisme sexuel et qui aboutit à la conclusion, parce qu'on n'a pas, on n'a pas d'explication scientifique de ce fait autre qu'une alimentation différente, disons une sélection qui s'est produite au fil des millénaires par le biais d'une alimentation différente. Une alimentation différente où on donne aux garçons l'accès aux protéines et au calcium, donc à la viande si vous voulez, alors que les femmes subissent des tabous alimentaires et sont nourries davantage de bouillies, de choses émollientes. Et encore plus quand elles ont besoin d'allaiter ou quand elles sont enceintes, avec toute une série d'interdits, mais qui passent, des interdits sont des interdits qui ne sont pas fondés rationnellement. Ils sont fondés en fonction de représentations que l'on a, de mouvements, des substances, des humeurs du corps qui se rencontrent. Bref, on pense qu'il est mauvais pour les femmes d'être mises en rapport avec du sang ou avec des choses puissantes comme la viande quand elles en auraient le plus besoin. Résultat, les femmes, dans toutes les sociétés, n'ont pas sont trop petites pour accoucher aisément, ce qui implique d'ailleurs une très forte déperdition féminine au moment des accouchements, parce que elles présentent ce qu'on appelle des dystocies, elles ont un bassin trop étroit, etc. Donc c'est une lourde perte pour l'humanité. En fait, il y a pas de correspondance du même ordre dans le monde animal. Alors pour quelles raisons
Cette différence est liée à...
Elle est constante, elle est régulière, et visiblement, elle est inscrite dans l'histoire de l'humanité par une sélection progressive qui s'est faite et qui a induit un plus faible développement physique des femmes. Et si on regarde assez près, d'assez proche, on se rend compte que ça continue. C'est vrai, dans une grande partie de l'humanité, ça continue d'exister, mais c'était vrai également dans notre propre passé, il n'y a pas si longtemps. Et donc moi je suis beaucoup plus âgée que vous, mais j'ai connu la guerre de 40. Et pendant la guerre de 40, j'allais en vacances dans des fermes du Livradois, c'est-à-dire de l'Auvergne, chez des parents de la famille de mon père. Bien, c'est là où pour la première fois j'ai vraiment vu cette différence. La cousine qui était mariée à un cousin de mon père ne s'asseyait pas à table et mangeait ce qui restait. Et quand elle mangeait ce qui restait, la viande était partie. Bon. Elle disait préférer la tête du lapin et les carcasses de poulet. Elle disait préférer. C'est pas qu'elle préférait, c'était ce qui lui restait pour elle. La tête du lapin et les carcasses de poulet. Bon. Et quand j'étais enfant, ben c'est vrai qu'à la maison, on donnait un beefsteak plus gros, un steak plus gros à mon frère qu'à ma sœur et à moi. Parce qu'on disait que les garçons avaient besoin de plus de force. Et bon, je pensais que c'était terminé, ça. Mais encore tout récemment, je disais cela lors d'une conférence. Il y a une jeune femme qui est venue me trouver en me disant « Vous m'avez fait honte parce que je me suis rendu compte que je faisais ça chez moi à la maison. » Je donne plus de viande à mon fils et à mon mari que pour moi et pour ma fille. Bon. Ben, imaginez que vous parliez des choses invisibles. Ben, ça fait partie des choses invisibles. Et cette chose invisible, la différence de taille, fait partie des choses qui paraissent naturelles. Elles ne sont pas naturelles. Elle a été acquise.
Faut-il qu'à moi-même je me rappelle ? Faut-il qu'à vous toutes je m'adresse ? Pour qu'au fil des mots me revienne ma nature, qui fut ma honte, ma faiblesse, ma souillure. Faut-il qu'à moi-même je me rappelle, faut-il qu'à vous toutes je m'adresse, pour que me revienne ma nature, qui fut ma honte, ma faiblesse, ma souillure, qui fut mon combat contre moi, puis contre moi, puis contre les autres, puis des fois, puis contre moi, puis contre les autres, puis contre moi, puis contre mon ventre, puis contre moi, puis contre les hommes, puis contre moi, puis contre les femmes, puis contre mon ventre mou, creux, tendre, mon ventre comme une outre que j'ai griffé de haine, contre moi, contre ce que je suis, une femme, une femme. À ma nature, à la beauté grégaire, j'ai plié sous l'amour, à m'en rompre le chine, j'ai cédé à l'appel du vide, et j'ai rempli mon ventre de vie palpitante, sans savoir que le destin fatigable, déraisonnable, minable, me ferait mère d'une fille, elle sera femme, elle sera femme. Je boite d'avoir plié, d'avoir cédé, d'accepter d'être femme. Plié d'être femme, cédé d'être femme, accepter d'être femme. Une part de moi est un homme, avec un grand H. Homme, homo sapiens, homo habilis, habile pour tout, même pour les créneaux, connards. Une part de moi est une femme, avec un petit F. Y'a pas de grand F pour les femmes, y'a juste les femmes encore. Encore une femme au volant, encore une qui l'a bien cherchée, encore une féministe, encore une salope, encore une chienne. Encore. Tant que nous plierons sous l'amour, tant que nos ventres souples feront tant de filles que de garçons, tant que nous aurons la féminine sagesse de nous soumettre à nos instincts tout droit. Il y aura des femmes, des faibles, des fortes, des rageuses, des boiteuses, des assassinées, caillassées, tondues, raillées, opprimées, révoltées, humaines comme des âmes, avec un grand H, un grand H, un grand H, ça peut guérir la conquête du grand H de l'homme. Paru pour le décollage. Ambiance fusée spatiale, si vous avez pas compris, ouais. Ah, je reprends mon souffle. Je m'en fous. Ah, j'ai encore chaud au même moment, dis donc, c'est bizarre. Décollage. Dans 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, non, que dalle, on n'est pas prêt du tout. Non, t'as vu ça où? Qu'on serait prêt maintenant, là, pour le décollage, le grand âge de l'homme. Non, c'est pas le moment. C'est pas le moment, ça chie encore. Hein. Ça chie, si tu fais ça, maintenant, t'es morte. Et t'es morte aussi. Hein. Oh là 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 là. Ouh, y a rien de pire pour même que de se faire traiter de féministe. Ça, c'est terrible. C'est terrible, terrible, terrible. Pédé ! Ah ! Pédé, 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 pédé ! Non ! Non, la conquête du grand âge de l'homme, c'est pas rien, putain, c'est la guerre. Ça prend toute la vie. Et... certains ont baissé les bras. Eh ben non, on n'est pas prêts, voilà. Voilà, tant qu'on priera nos dieux misogynes. De merde, pardon, mais ils sont misogynes. Hein. Ils sont misogynes, les dieux. Tous. Tous, on n'y est pas encore là. Mais quelques-uns ont réussi. Quelques-unes aussi, ce qui fait qu'un jour, on sera prêts. Pour venir écouter Barbara Weldens, qui chante à poil. Je les entends parfois rire à la même table, partager les beaux fruits de la terre. Je les entends parfois jouir dans le même lit, partager les beaux fruits de la chair. Je les entends jouir d'être égaux dans le grand H qu'ils ont conquis comme des braves, comme des frères et des sœurs, comme des hommes et des femmes.
Je me sens toujours structuraliste, en ce sens que je fais primer la recherche de l'universel sur le relativisme culturel. C'est-à-dire qu'à une époque où on met toujours en évidence l'irréductibilité des différences, moi je pense que les différences culturelles hein, existent oui. Et qu'elles sont nécessaires pour quand justement il soit possible de pouvoir en extirper des constantes qui sont les lois de l'universel. Et c'est les lois de l'universel qui m'intéresse comme elles intéressaient Lévi-Strauss. Simplement, je ne porte pas, je ne travaille pas sur les mêmes matériaux. Oui. La parenté, oui, pendant oui. 25 ans, oui. Mais pas du tout sur les mythes. Et mes matériaux à moi incluent le corps. Oui. Incluent le corps et la substance, disons, en général. Les substances en général, et donc et elles incluent également pour ce qui touche très particulièrement à tout ce grand système qu'a mis en place Lévi-Strauss pour expliquer le social, à savoir la prohibition de l'inceste qui entraîne l'exogamie et qui entraîne la nécessité d'un lien durable entre les groupes qu'on appellera mariage, qui entraîne aussi la solidarité entre les deux personnes d'un couple, et c'est la répartition sexuelle des tâches, ça c'est son grand modèle, et j'y ai ajouté quelque chose qui me paraît absolument fondamental, qui est la valence différentielle des sexes, parce que pour qu'il y ait la prohibition de l'inceste telle qu'elle se présente toujours, et telle que les informateurs le disent, et tel que les anthropologues le voient, à savoir que des hommes échangent leurs oui. filles et leurs sœurs contre les filles et les sœurs des hommes appartenant à d'autres groupes, il fallait qu'ils en eussent le droit, et qu'ils aient conscience d'en avoir le droit. Bon. Donc il fallait que la valence différentielle des sexes existât en même temps, ou était déterminée auparavant. Et la valence différentielle des sexes est une équation qui fait que le rapport masculin est considéré comme le rapport parent-enfant, comme le rapport aîné-cadet, qui dans les deux cas tirent leur légitimité de l'antériorité. Mmh. L'antériorité de la naissance vaut supériorité. Mmh. Et le rapport masculin-féminin est tel que, alors même que là il n'y a pas nécessairement antériorité de naissance, mais il est inclus, il entre dans cette valence différentielle du sexe et des générations, puisque c'est son terme complet, son intitulé complet, et qui fait que les femmes sont dans toutes les sociétés considérée comme mineure. Ce n'est pas seulement comme Lévi-Strauss l'a dit en répondant à des attaques féministes américaines notamment, qu'il accusait d'être de misogynie. Bon, et il a répondu, mais on pourrait présenter mes modèles de façon inversée, il resterait que ce serait toujours les mêmes modèles. C'est vrai, mais ce qu'il oubliait de dire, c'est la matérialité des choses, c'est la façon dont ensuite les choses se passent socialement parlant. C'est la mise en tutelle des femmes, c'est leur impossibilité de décider, elles auront, donc elles n'ont pas la liberté de l'usage de leur corps, elles n'ont pas la liberté d'accéder au savoir, ni la liberté d'accéder aux fonctions de pouvoir. Donc il y a quand même toute une série de conséquences qui sont des conséquences à la fois sociales et, vous pouvez vous en douter, des conséquences psychologiques.
Non, c'est vrai, c'est pas cliché de dire que c'est un cap. Il y a quelque chose qui se passe. Quand tu dis aux gens que t'as 40 ans, les gens te disent « Oh, ça va, c'est pas vieux 40 ans ». Non, c'est pas vieux 40 ans, mais c'est vieux d'un coup. En fait, c'est ça le problème. C'est que c'est soudain, c'est qu'il y a un vieillissement qui accélère. Parce qu'on vieillit depuis qu'on est né, bien sûr, mais c'est un processus qui est lent et progressif, si bien qu'on ne se voit pas vieillir. Mais à 40 ans, il y a une bascule qui s'opère soudaine. C'est-à-dire que je le vois même déjà au niveau du corps. Aujourd'hui, moi, je mets une robe vintage. Sur moi, c'est juste une robe. Je vois qu'il s'est passé quelque chose. Et on a vieilli d'un coup, c'est ça. Mais c'est encore plus terrible, d'ailleurs, cette sensation d'avoir vieilli d'un coup quand on est une femme. Parce que quand on est une femme, il faut en plus qu'on accepte cette loi, parfaitement injuste, hein, qui veut que... Ben, les hommes auxquels je pouvais prétendre avant, les hommes de mon âge, peuvent, eux, soudainement prétendre à beaucoup plus fraîche que moi. Et c'est une loi qu'on accepte tout à fait spontanément, tout à fait naturellement, sans se poser de questions, vraiment. Moi, je me suis rendu compte que spontanément, je ne regardais plus les hommes de mon âge que je trouve séduisants dans la rue. Je ne regarde plus, ça y est. Je les regarde, mais je ne les envisage plus. Je les regarde... comme un naufragé sur une île déserte, quoi, qui voit passer le 10e avion de la journée un peu trop loin de l'île pour qu'il l'ait vu. C'est comme ça que je le regarde. Mais je ne l'envisage plus. Il y a une bascule au niveau des exigences. C'est très violent. La femme de 40 ans doit se résigner à se faire potentiellement draguer par un mec de 70 piges, dont la laine indique clairement que la décomposition interne est enclenchée. Hein, c'est normal. Le premier jour où ça t'arrive, t'as envie de pleurer sous la douche, vraiment, le soir. Mais on l'intègre. C'est tragique, hein, ce qui se passe. C'est-à-dire que, moi, là, l'autre jour, j'étais dans la rue. Et je vois un chauve passer. Et puis, je pensais aux choses comme ça. Puis, tout d'un coup, sans y penser, je me dis, tiens, il est pas mal, ce mec. Un chauve. Non, mais un chauve. Je peux envisager sexuellement un chauve aujourd'hui. Non, mais c'est fou. Non, mais moi, les chauves, il y a encore un an, je les regardais avec un mélange de compassion et d'amusement, quoi. Légèrement condescendant, quoi. Pour moi, le chauve, c'était une espèce à part de l'humanité, quoi. C'était entre l'aveugle et l'humain, le chauve, quoi. Et là, aujourd'hui, maintenant que j'ai les seins qui pendent dans le vide affectif, je peux envisager sexuellement un chauve. Non, c'est tragique, hein, ce qui se passe à 40 ans, vraiment. Moi, quand je suis au maximum de l'optimisme maintenant, et que je me mets à rêvasser, la première idée qui me vient, c'est « Oh, j'espère que le prochain mec qui voudra bien me baiser me plaira un peu. » C'est à ça que je pense, moi. Non, c'est tragique. C'est réellement tragique.
Mais ce que je voulais dire, surtout, c'est que l'introduction de la valence différentielle des sexes faisait que désormais, on s'intéressait aux individus en tant que sexués et non pas aux individus en général, comme c'est le cas dans la théorie lévi-straussienne. Voilà. J'ai cherché à comprendre quelles pouvaient être les sources de la violence. De la même manière que j'ai cherché à comprendre quelles pouvaient être les sources de cette, disons en gros, de la domination masculine comme effet de la valence différentielle des sexes et des générations, je me suis intéressée donc à comprendre à voir s'il était possible d'établir de façon là aussi universelle des lois, des lois qui permettraient de comprendre comment la violence vient aux hommes, aux humains. Parce que d'une certaine manière, s'il me fallait prendre parti dans un conflit très ancien et tout à fait philosophique, de savoir si la nature de l'homme est fondamentalement bonne ou mauvaise, à laquelle on répond généralement qu'elle est mauvaise. Hein, l'homme est un loup pour l'homme, enfin vous connaissez ça mieux que moi. Bon, j'aurais tendance, moi au contraire, à penser que la nature de l'homme n'est pas naturellement portée par la mauvaiseté et la violence. Bon, mais je pense que la nature de l'homme ne le porte pas nécessairement à la violence, à la compétition, à prendre la main sur autrui, et que ce sont des interstices entre différents types d'obligations, hein, mmh. et donc qui ont été portées par des lois sociales, et qu'il y a toujours des interstices où la violence prend sa source.
Ce qui nous fait flipper, nous, c'est sa pénétration. C'est pas nouveau, c'est pas révolutionnaire ce que je dis. Simone de Beauvoir, elle disait carrément « Toute pénétration est un viol ». C'est une phrase forte. Mais c'est vrai, il y a quand même cette idée de coercition, de domination, de violence dans le rapport hétéro. Je veux dire, enfin, la première fois au lit pour une fille avec un garçon, il s'agit quand même beaucoup pour la fille de se laisser faire. Hein. C'est ça qui se passe. Hein. Alors, c'est pas du viol caractérisé, bien sûr, parce que le garçon procède étape par étape pour que la fille ait pas l'impression que tout ça se passe sans son consentement. Hein. C'est la technique du pied dans la porte. Hein. C'est très bien, mais... Enfin, du doigt dans la chatte, en l'occurrence. Mais c'est vrai qu'il y a cette idée, quand même. Hein, il y a cette idée de violence, d'intrusion, de domination, Oui, de... Alors, c'est pas du tout un procès d'intention que je commence à faire aux hommes. Hein. Je voudrais pas qu'on se méprenne là-dessus, parce que c'est pas ça du tout. D'abord parce que je pense que les hommes n'en ont pas du tout conscience, hein, de cette violence qui nous inflige dans la sexualité. Mais pas du tout. Non, les hommes, dans la sexualité, les hommes expérimentent des choses. C'est ça. C'est un truc d'explorateur. C'est plus un truc... Je pense que les hommes... Le corps de l'autre est un terrain de jeu, hein, pour l'homme. Et il essaye des choses, mais il pense pas à mal. C'est pas ça. Hein. C'est comme quand on file un jeu d'éveil à un singe. Plutôt, c'est ça. On a tous vu ces images de laboratoire avec le chimpanzé en train de galérer avec un jeu d'éveil comme ça, et le chercheur qui prend des notes à côté. C'est avec le singe qui essaye de mettre le cylindre dans le carré, ça marche pas. Dans le triangle, ça marche pas. Et une fois que le singe a repéré que le cylindre rentrait dans le trou rond, il est content. Il est content. Et il est très content. Il est vraiment content. Et il va répéter cette action. C'est ça qui va se faire. Mais si le cylindre rentre aussi dans le trou en forme d'étoile, en forçant un peu, hein, imaginons si les formes sont un peu flexibles, par exemple, hein, et que le chercheur qui l'observe ne le sanctionne pas à ce moment-là en lui administrant un petit coup d'électricité, par exemple, eh bien, si le singe trouve ça cool de mettre le cylindre dans l'étoile, il va répéter cette action. Hein. Il sera aussi très content. Il va répéter cette action. Les hommes, c'est pareil. Les hommes, c'est pareil. Non, je dis pas que les hommes sont des singes. Hein. C'est pas ce que je dis. C'est très différent. Les singes ne bombardent pas les gens pour les convertir à la démocratie, par exemple. Entre autres différences. Non, mais je veux dire, c'est le même mécanisme, en fait. C'est que comme on les sanctionne pas, comme on électrocute pas les hommes, enfin, rarement, ils intègrent la violence comme étant possible, en fait, c'est ça, dans la sexualité. Et nous, à partir du moment où on a commencé à bien fermer notre gueule, on intègre aussi la violence comme faisant partie du processus de l'érotisme, de la sexualité, du désir en général. Et après, l'un va plus sans l'autre. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on a un problème de désir dans les sociétés égalitaires aussi, d'ailleurs. Parce qu'on a une libido qui est réglée exactement de la même manière que chez les Cro-Magnons, en fait. Il n'y a pas de désir sans une dose d'humiliation et de domination, c'est ça, quoi. On désire un homme qu'on pourrait potentiellement craindre, en fait. C'est ça. Le viol est un fantasme féminin, quand même, c'est dingue. Hein. Viol est un fantasme.
Je disais, parler tout à l'heure du confort qu'il y a à être dans une situation de domination et d'être servi. Bon, eh bien, la première mention écrite que j'ai trouvé de la chose, c'est dans un papyrus égyptien qui date, disons, du 3e millénaire avant Jésus-Christ, et où un philosophe dit, s'adresse à un homme et lui dit, si tu es dans ta maison qui est bien tenue, bien balayée par ta femme, qu'il y a une cruche à l'entrée remplie d'eau fraîche et que tu as soif, tu peux tendre le bras et te servir à boire, il n'est pas nécessaire de l'appeler. Oui. Donc ça veut dire déjà ce bonheur d'être servi se voit dans les petites choses. Bon, à partir de, il dit bien tout, si tu es dans ton confort, ta maison bien tenue, bien balayée, avec ta cruche pleine, n'appelle pas ta femme, tu peux quand même tendre le bras. Eh bien, je trouve ça extraordinaire parce que ça montre bien où se situe, hein, le bonheur de la domination et cette absence d'écoute et cette absence d'attention, et c'est cela qui est en train qu'il convient de faire disparaître par l'attention portée aux filles. Exactement. Il s'agit simplement de cette espèce de partage, de conviction intime absolue que l'on parle à des égaux quand on s'adresse à ceux de l'autre sexe. Et cet avantage fondamental que je vois dans l'avenir et qui me paraît extrêmement important, même s'il est difficile à mettre en mots, c'est cet apprentissage à l'écoute de l'autre. Je pense que très fréquemment, un des problèmes, vous parliez de l'ennui, avec l'amour, ils s'aimèrent, ils furent heureux, ils se marièrent, ils furent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants, on pourrait ajouter, ils cessèrent de se parler.
Jacques, comme Daria et Quinn seront absentes 2 jours, nous pourrons en profiter pour passer ensemble un de ces moments privilégiés que recommande notre conseiller conjugal.
Excellente idée. Qui ça?
J'ai consulté un conseiller conjugal parce que je veux développer dans notre couple le sens de l'échange et du partage. J'étais débordée pour tenir compte de toi, alors j'y suis allée seule.
Elle cesse de se parler. Bon. Mais alors, la question, c'est celle-là. Est-ce qu'il faut continuer à cesser de se parler, j'entends, à cesser de s'écouter, à cesser de s'entendre, à cesser de prendre en considération ce que l'autre dit et pour lequel on est tout ouïe quand on est amoureux, ou tout au moins on croit l'être. Et donc il y a un apprentissage à l'écoute de l'autre et à la durabilité de cette écoute tout au long de la vie. Les couples heureux sont ceux qui se sont toujours parlé et qui se sont toujours compris. Et où il n'y a pas eu cet arrêt dans la brutale, dans l'attention portée à l'autre. Et je pense que nous vivons peut-être un temps où il serait important de changer un mode éducatif en portant l'intérêt sur cette compréhension mutuelle et la durabilité de cette compréhension.
Veux-tu faire l'amour avec moi ?
Non, il est trop tard. Si tu veux faire l'amour le soir, il va falloir que tu demandes à un jeune comme elle. Je suis sûr qu'il ne demanderait pas mieux.
J'ai pas envie de baiser, vieux concombre. J'ai envie de faire l'amour avec toi. Tu comprends jamais rien.
Je sais que tu m'aimes uniquement pour mon corps.
Oh! T'as une petite queue pis tu bandes mal.
Je t'aime, ma toutoune.
Moi aussi, t'es bien chanceux.
Et je le sais.
Vous parliez tout à l'heure de 2 cerveaux, le cerveau de raison et le cerveau de cœur. Eh bien, je dirais moi aussi que le cerveau de raison est doublé d'une sorte de cerveau limbique émotionnel primaire qui nous fait réagir d'une certaine façon, qui est voulue par cette tradition qui nous vient de la nuit des temps. Eh bien, c'est contre cela qu'il faut être vigilant. Et donc, cette espèce de vigilance complète me paraît, plus l'attention portée à autrui, me paraissent être parmi les leviers individuels que nous pouvons apprendre à manier. Alors qu'il y a ensuite des leviers collectifs, bien entendu. Alors ces leviers collectifs, c'est l'action. L'action politique, croyez-moi, j'y crois. L'action de tous les groupes, y compris ceux qui nous paraissent les plus étonnants. L'action des fémines, par exemple. Bon. À quoi ça rime? La plupart des temps, les gens se disent, mais quelle bizarre idée d'aller se mettre nu dans les espaces publics pour protester contre un certain nombre de faits. Mais curieusement, ces femmes de l'Est de l'Europe ont redécouvert un système de coercition par l'esprit qui est utilisé dans des sociétés africaines et qui est une sorte de malédiction du féminin et qui implique que lorsque les femmes ne sont pas contentes du tout, mais alors pas du tout, du comportement collectif des hommes, soit guerriers, soit violents, soit pour différentes raisons. Elles s'insurgent contre ce comportement. La meilleure arme qu'elles ont, c'est de se mettre nues devant ces hommes, et parmi lesquels il y a leur fils. Et donc, c'est parce que l'idée qui est en tête, c'est de dire que, qui est très profonde, je crois, sur un plan analytique, c'est de se dire que si tout le monde sait qu'il va mourir, et tout le monde sait qu'il est né d'un corps de femme, c'est une autre chose que de se voir montrer et de se dire « je suis né de ce ventre-là, de ces seins-là et de ce sexe-là ». Et quand elles le font, elles dépassent des limites qui ne sont pas supportables par l'esprit humain. Et donc, vous voyez, c'est très intéressant de reprendre de la sorte avec une analyse anthropologique des choses qui nous paraissent dénuées de sens, parce qu'elles ont en fait un sens profond, mais qu'il convient de retrouver. Et ça, là aussi, l'action, elle est importante, et c'est l'action politique qui nous permet de temps en temps d'arriver à des leviers absolument essentiels, parce qu'on ne dira jamais assez à quel point la grande révolution de notre siècle, c'est le droit à la contraception. Qu'est-ce que j'ai dit ?
Notre sexe.
La grande révolution de notre siècle, c'est d'avoir eu enfin le droit à la contraception. Car si mes hypothèses sont bonnes, et si les femmes ont été mises en tutelle, et ce qui a fait le fondement des sociétés, justement parce qu'elles avaient ce privilège qui ne pouvait pas être compris, de mettre au monde les enfants des deux sexes, c'est en leur donnant la libre disposition de leur corps en ce domaine que l'on permet, qu'on a eu le premier levier pour changer le monde.
Moi, je suis féministe, hein, Je dis du mal des femmes, des fois, c'est vrai, mais c'est parce que je suis jalouse, hein, c'est tout. Mais c'est juste parce qu'avec la gueule que tire mes seins aujourd'hui, si je m'écrivais quelque chose sur le torse, on ne comprendrait pas bien le message. Mais je suis féministe. Je suis profondément féministe. Je pense que les hommes et les femmes devraient avoir les mêmes droits, les mêmes chances dans la vie, les mêmes salaires partout sur la Terre. Mais je ne suis pas totalement féministe, parce que c'est pas possible. Moi, je mets des talons, par exemple. Une femme qui met des talons n'est pas totalement féministe. Parce que qu'est-ce que c'est, mettre des talons, à part accepter l'idée d'être réduite à l'état de gazelle fragile et qui tu peux péter les pattes arrière à tout moment. C'est ça, mettre des talons. Donc ça veut dire qu'il y a un endroit où quelque chose résiste, il y a un endroit où on veut un dominant et un dominé. Mais c'est ça. C'est ni bien ni mal. Hein. Mais c'est un constat que je fais. Parce qu'on a intégré la sexualité de cette manière-là.
Or, toutes les sociétés ont été fondées sur ce modèle. Aucune n'y a échappé. Il y a une sorte de transcription volontariste qui a été faite génération après génération de ce modèle jusqu'à nos jours. Il a de plus servi de modèle, ce modèle de domination, pour tous ceux que nous connaissons, que nous avons connus historiquement et que nous continuons de connaître, son mode de perpétuation. Vous les retrouvez dans le rapport du maître et de l'esclave, vous les retrouvez dans le rapport du colonisateur au colonisé, dans le rapport du patron à l'ouvrier, dans tous les rapports de domination. Et c'est en ce sens qu'il est fondateur que cette domination première, ce système hiérarchique premier établi au cœur de la différence, a été le moteur de toutes les sociétés du monde. Or, je pense, et c'est en ce sens que mon intervention se place dans le cadre du réenchantement du monde, mais comme je l'ai dit plutôt, du recommencement du monde, que nous avons la chance de vivre une période qui non seulement nous remet en situation de refaire ce qui a été fait autrefois, mais non pas simplement en nous situant à l'époque du néolithique, mais en remontant beaucoup, beaucoup plus loin encore, à une époque plus ancienne, où nous avons créé toutes les armatures du social et nous sommes en train de mettre à mal un certain nombre de ces armatures, un certain nombre de butoirs pour la pensée, ne serait-ce que la catégorie du sexe. Et en ce sens, nous sommes en train de, disons, à l'aube d'un recommencement véritable du monde. Et je dois dire pour moi que, effectivement, la perspective de ce genre de choses que je ne verrai pas. Il est possible qu'aucun de nous ne voit dans sa réalisation, parce qu'il y faut du temps, mais en tout cas, cela m'enchante, oui.
Que Dieu Dieu m'en soit témoin. Je jure que plus jamais je ne tirerai un homme.
Je postule que tout ce qui un jour aura droit de citer dans la pensée existe nécessairement déjà, puisque un jour ce sera rendu possible. Donc il y a dans le ciel des idées, des choses fondamentalement possibles qui n'ont jamais été pensées. Jamais été pensées. Et puis un beau jour, à cause justement de ce travail de fourmi de la science qui fait que soit de façon continue, soit avec des bonds, qui à un certain moment font changer de registre, tout d'un coup, quelque chose qui n'avait jamais été pensé devient pensable. Parfois, c'est par un seul individu, c'est le fameux Eureka, mais il y en a bien d'autres. Tout d'un coup, quelqu'un met en liaison un certain nombre de faits, ce que personne n'avait fait, et il en tire une conclusion. Bon. Alors, la plupart du temps, ben, mal lui en prend. Je veux dire, celui qui a une idée nouvelle...
Oui, la dérive des continents...
On accepte extrêmement mal.
On éclate de rire pendant plusieurs décennies.
Absolument. C'est très très mal pris la plupart du temps. Parfois, certains y ont laissé leur vie, d'ailleurs. Et puis, il se trouve simplement que les idées, lorsqu'elles ont un fondement de vérité, je ne dis pas qu'elles disent toute la vérité, mais qu'elles trouvent une porte sur une forme de vérité, eh bien, elles sont contagieuses et que cette idée que quelqu'un a formulée et qui lui vaut l'excommunication, voire la mort, etc., va devenir pensable par un certain nombre d'individus de plus en plus nombreux. Et c'est à partir du moment où cette idée devient intellectuellement pensable et énonçable par un grand nombre d'individus, qu'elle peut arriver parfois, et c'est là vraiment un changement spectaculaire, à devenir émotionnellement concevable par une majorité. C'est-à-dire qu'elle ne fait plus peur. Elle ne suscite plus cette peur panique dont vous parliez devant le mystère, devant le Dieu qui vous regarde, le regard qui est fixé sur vous, qui poursuit Caïn dans la tombe. Et donc, quand elle devient émotionnellement concevable, à ce moment-là, elle est acceptable par l'ensemble de la pensée, par la pensée, et elle peut même, dans certains cas, devenir une institution. Et alors, une institution qui risquera à son tour de devenir une doxa. C'est vraiment les questions les plus difficiles parce qu'elles obligent à la fois de prévoir et en s'appuyant sur ce qui existe et sur ce que l'on souhaiterait voir exister. Et c'est dans la discordance entre les deux qu'il faut trouver donc les moyens d'action. Alors les moyens d'action, je pense qu'il y en a. Bon, ça fait un peu éculé de le dire, mais je crois que moi je les situe toujours dans l'éducation. Et j'entends par éducation non pas seulement l'éducation livresque, l'éducation scolaire, l'éducation fournie par des enseignants qui transmettent un savoir, encore que je crois beaucoup à la nécessité de cet appui sur ce que nous ont transmis nos ancêtres et sur la transmission. Et je pense à l'éducation tous azimuts, celle qui nous vient dans la famille, de la rue, des médias, des lectures, des bandes dessinées, enfin de tout ce qui frappe l'imaginaire de l'enfant. Et donc, plaider pour une éducation, ça veut dire d'abord plaider pour la transformation aussi de ceux qui éduquent. Et c'est pour cela que les choses sont lentes à faire, c'est que nous ne pouvons pas d'un coup de baguette magique insuffler une sagesse totale dans les esprits de tous les éducateurs. Donc cela peut se faire aussi que progressivement au fil des générations. Mais donc ce qui me paraît important, c'est de faire passer des messages assez vite, puisqu'on parle beaucoup d'éducation civique, d'éducation morale, de laïcité, d'éducation à la laïcité à l'école. Je crois qu'on pourrait revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure sur la nécessaire attention portée à autrui et sur cette prise en, et sur ce que j'appelle moi la vigilance. ouvrir les individus dès leur enfance à la nécessaire vigilance par rapport à leurs propres réactions, leurs propres actions, leurs propres comportements, et à essayer toujours de débusquer. Ça paraîtrait invivable, mais en fait, ça devient une seconde nature quand on s'y efforce, à toujours débusquer ce qui, dans votre façon d'agir, relève moins de votre initiative et de ce que vous pensez que de la conformité à la règle.
Moi, la première fois, je me suis fait enculer. Je parle pas de quand j'ai voté Hollande. Hein. Je parle de la fois où je l'ai pris dans le cul, vraiment. C'est ça dont on va parler maintenant. J'étais avec un garçon et il était derrière moi. Tout allait bien, tout allait bien, tout était très agréable, très bien réalisé. Bravo monsieur, bon, très bien. Et soudainement, mais très très soudainement, hein, une soudaineté. Rare dans l'histoire de la soudaineté, vraiment. Je pense que rien n'a jamais été aussi soudain. Enfin, bon, le Big Bang, peut-être, et encore. Le garçon m'encule. Je suis projetée en dehors du lit par la douleur. Non, mais le corps entier a fait une sortie de lit entièrement. Mais c'est même pas mes muscles que j'ai senti se contracter pour partir. Le corps lui-même a fait un rejet de la bite. Je suis partie comme une grenouille. Je suis partie en réflexe. Mais bang, comme ça. Vraiment, ma tête est partie s'encastrer dans un coin de la pièce. J'étais toute nue, ratatinée, dans un coin de la pièce, sur le plancher, comme un petit rongeur qui va mourir. J'étais comme ça. Et j'ai pas eu le temps de dire au garçon « Stop, pousse, attention, tu t'es trompé de trou. Non, attention, minute de silence, mon anus est décédé. Non, attends, hashtag, je suis mon anus. » Le garçon me rattrape par les jambes comme ça, il me tire et il me réencule. Le cauchemar. Mais le cauchemar. Mais le cauchemar. Mais le cauchemar, c'est un... Parce que la sodomie, c'est un tunnel. À partir du moment où la personne sodomise, elle sodomisera jusqu'au bout. Il n'y a pas de pause, il n'y a pas d'échappatoire. Toi, t'as juste à t'accrocher au drap comme ça, à supporter la montée de fièvre et attendre que ça se termine. C'est tout ce que tu peux faire. Le garçon termine. Mais je n'ai pas du tout osé lui dire que ça ne m'avait pas plu, moi. Mais pas du tout. Pas du tout. J'ai pas dit non plus « Waouh, amazing !» J'ai pas dit ça non plus. Mais j'ai rien dit. Alors bon, le garçon m'a impressionné beaucoup aussi, c'est vrai. J'étais très amoureuse de lui. Il était beaucoup plus âgé aussi, il était en seconde. Donc je voulais pas passer pour un gamin aussi. Mais je n'ai rien dit. Et je me rappelle, après, il était allongé sur le lit à côté, sur le ventre. Il se reposait. Hein, Et moi, j'étais là à côté, puis j'ai caressé le dos. J'avais toujours pas reparlé. Hein. J'étais ahurie, complètement encore, mais un peu contente que ce soit terminé quand même. Et j'ai caressé le dos comme ça. Je sais pas pourquoi j'ai caressé le dos. Pour lui signifier que j'étais pas décédée pour un moment. Faire genre, ouais, moi, la sodomie, j'encaisse, t'inquiète. J'ai caressé comme ça. Et... Alors, peut-être mes gestes étaient un peu mécaniques, c'est possible. Parce que de toute façon, j'étais plus là, j'avais décroché. J'avais sécrété tellement d'adrénaline pour supporter la douleur. J'avais des hallucinations, mais c'était dément. J'avais des images de supplices religieux. Je sais pas pourquoi. Je voyais mon anus crucifié dans le désert, avec des trucs multicolores derrière, et ma mère en bas de la croix, comme ça, à genoux, en train de pleurer des larmes de caca, comme ça, ouh, comme ça, avec des cloches, ding, dong, ding. J'étais vraiment plus là du tout, plus là du tout. Alors, c'est possible que mes gestes étaient un peu mécaniques, c'est possible. Toujours est-il qu'à un moment, le garçon se retourne comme ça, et il me fait mais tu peux changer d'endroit J'ai dit, quoi, un problème administratif? Je comprends rien, ce qu'il me disait. Il me dit, non, mais tu passes tout le temps ta main au même endroit sur ma peau et à force, ça mérite. Est-ce que tu peux changer d'endroit? Et si tu peux changer d'endroit? Tu viens de détourner la fonction d'un de mes organes vitaux. avec un risque létal, disons franchement, je n'ai rien dit. Tu as brisé tous mes rêves. J'ai plus qu'une envie, c'est de passer le restant de mes jours le cul dans une bassine de biafine. Et tu veux que je change d'endroit pour te caresser parce que ça t'irrite? Je lui ai pas dit ça, je lui ai pas dit ça, évidemment, je lui ai pas dit ça. Ça, je l'ai trouvé il y a 2 semaines. J'ai rien dit, j'ai changé d'endroit.
Non, je ne dis pas que j'ai un regard tendre sur la nature humaine, je dis qu'elle n'est pas fondamentalement toute mauvaiseté. Elle a des possibilités de passer de l'autre bord. Mais on ne peut pas prétendre qu'elle est fondamentalement et dès l'origine uniquement tournée vers la prédation. Mais la nature humaine est nécessairement plus complexe. L'éthique, là, c'est effectivement pour moi la recherche de ce niveau où tous les humains peuvent s'entendre en disant que certaines choses sont admissibles et d'autres inadmissibles, certaines choses sont tolérables et d'autres intolérables. Et il y a un certain nombre de points sur lesquels un consensus universel pourrait être atteint.
Moi, je suis pas comme vous autres. J'ai pas envie de baiser une nouvelle fille à tous les jours.
J'étais pas comme ça à ton âge non plus. Toi, tu peux pas continuer indéfiniment à faire de la suppléance dans les écoles primaires puis à corriger nos copies. Faut que tu fasses ton doctorat. Tu vas vouloir t'acheter un appartement en ville, peut-être une maison de campagne. Ça occupe ton esprit. Tu rêves peut-être d'écrire un livre important. Moi, je sais que je serai jamais Arnold Toynbee, ni Fernand Braudel. Tout ce qui me reste, c'est le sexe ou l'amour. On fait jamais vraiment la différence. Au fond, je ne sais pas ce qui me reste. C'est pour ça que le vice vient avec l'âge.
Mais moi, j'ai pas d'ambition de même. Je voudrais juste être heureux un peu, c'est tout.
Ce soir d'été, la trentaine érige l'évidente beauté. Le soleil engorge ta peau d'un sang qui bouillonne. Encore un peu et ton cuir pourrait fendre comme un fruit éclaté de sucre et d'ambre. Homme, ami, frère, en ce soir d'ivresse, l'allègre amitié s'alourdit de tendresse. Et sur le ton que prennent les vieux copains de peine, les yeux sous et le sourire qui se mord, on se dit qu'on s'aime et ça résonne. Longtemps, longtemps le silence accompagne les maudits de sa muette symphonie. Et nous buvons le soir épicé de regrets. Homme, ami, frère, nous sommes tous deux nourris à la même mamelle de la même nuit. C'est la même terre qui nous berce, la même chape qui nous oppresse, le même sang que nous crachons dans nos voies, le même vin que nous brûlons dans nos foies. Homme, ami, frère, tu es beau, tu es noueux comme la vigne des crins jusqu'aux racines et ta bouche tremblante exulte quelque aveu fardé d'insultes. Mais déjà la vibration s'achève, étouffée par le mégot à tes lèvres. Longtemps le silence accompagne les maudits confidences travesties. Et nous buvons le matin épicé de nuit blanche. Homme, ami, frère, le soleil nous a jouer un tour d'avance, il a gagné encore. Sa lumière nous poudre de pâleur. Il nous faut rejoindre les lueurs que le monde bienveillant allume. L'enclume, l'enclume, l'enclume que le jour allume pour nous. Homme, ami, frère, fais durer la collade une seconde de trop pour ce monde si prompt, homme. Ami, frère, cette nuit était la nôtre, mais le monde est aux autres et le jour nous reprend, homme. Ami, frère, la vie en vaut la peine, car tu sais que je t'aime et je sais que tu m'aimes, frère. Je rentre chez moi, je titube un peu, mais je sens dans mon dos tes yeux qui me portent, et dans un dernier rire, sur le pas de ta porte, tu persistes et tu signes. Ému, mais digne.
Ce que moi j'ai cherché à mettre en évidence, c'est ce qu'il y avait de commun entre, disons, d'abord entre, pour l'homme et l'animal, bien sûr, et ensuite de plus en plus pour l'homme tout seul, ce qu'il y avait en commun qu'on pouvait mettre en évidence dans toutes les organisations sociales. Alors ça va des besoins les plus élémentaires, alors le besoin de se nourrir, et de nourrir ses proches, bon. Le besoin de se reposer en confiance, qui est une chose extrêmement importante, le besoin de se reposer en confiance, et donc de faire confiance à des gens, ce besoin de, et ce qui s'accompagne toujours de leur doublet négatif, parce que si vous faites confiance à certains, c'est, vous serez entraîné à ne pas faire confiance à d'autres. Donc chaque fois que vous avez la face positive, il y a une face négative qui va apparaître. Donc, si vous réservez la nourriture à vos proches, vous allez la refuser à d'autres qui ne sont pas vos proches. Alors, donc, ben, à côté de ces besoins très fondamentaux qui sont ceux de, aussi bien des espèces animales, bon, il y en a d'autres, partagés aussi pour beaucoup par les animaux, et qui sont le besoin de conformité, le besoin d'être semblable, le besoin de conformité non seulement dans son être, et son paraître, mais également dans son avoir, c'est-à-dire avoir comme les autres. Là, ce qui amène tout, ce qui amène aussi tous ces contraires, l'envie, la jalousie, la compétition, mais qui viennent en fait encore une fois comme des envers, hein. Des besoins spontanés, des besoins d'être et d'avoir comme les autres. Il y a le besoin de protéger, d'être protégé, qui est un besoin là aussi fondamental, qui explique le rapport parent-enfant. Et les cadets, le besoin de protection. Mais ce besoin de protection se pervertit en autoritarisme aussi. Donc, c'est pas. Et puis, vous avez le besoin de justice, d'égalité. J'en oublie, mais enfin, je pense que de proche en proche, on peut énumérer toute une série de besoins qui sont des besoins absolument fondamentaux.
Et ça, ce serait les besoins invariants de l'espèce humaine, par contre, sociale.
Oui, les besoins invariants. Les besoins invariants.
Voilà. Et donc on peut parler de nature humaine à ce moment-là, selon
vous ? On peut parler d'une nature du vivant.
Nature du vivant.
Une nature du vivant, parce que on s'est aperçu dans des expériences menées auprès d'animaux, de singes notamment, de petits singes, des singes capucins, qu'ils avaient une conscience très forte de l'équité, hein, par exemple. Une conscience très forte. Je suis désolée, je ne vais pas dire que je crois que les singes ont vraiment une représentation de l'équité, mais que leurs actions montrent qu'ils refusent l'inéquité. Bon, si vous, dans des conditions expérimentales, je ne sais pas du tout comment ça se passerait dans la nature, mais dans des conditions expérimentales, si vous dressez des singes, ces petits singes capucins, à faire un certain nombre d'actions, et que vous les récompensez à chaque fois qu'ils donnent la bonne réponse. Et puis à un moment, vous perturbez le jeu, c'est-à-dire qu'à celui qui donne la bonne réponse, vous ne donnez pas la récompense et vous allez la donner à ceux qui ont donné la mauvaise réponse. En 24 heures ou 48 heures, ils cessent de vouloir jouer. Il sait ce qu'on doit jouer. Alors, pense ça comme vous voulez, mais d'une manière ou d'une autre, quelque chose est passé dans leur comportement qui marque que la règle du jeu a été rompue. La règle du jeu
pour vous, ça, c'est une loi fondamentale du vivant.
Oui. Alors que nous en ayons fait après des conditions de moralité, ça, c'est autre chose. Mais au départ, je crois que ce sont des besoins fondamentaux.
Besoins fondamentaux.
Et alors, quand je disais que c'est dans les interstices entre ces besoins fondamentaux, quand ils sont régulés par la loi, mais ils ne peuvent pas réguler toutes les articulations. Et la violence naît dans ces articulations. Ce besoin de protéger ses enfants, par exemple, je dis qu'il peut se transformer en autoritarisme. Et dans certaines conditions, ça peut être d'ailleurs un autoritarisme d'une très grande violence. Et la révolte qui s'ensuit peut être également d'une très grande violence. Mais c'est parce qu'il y a quelque chose s'est produit qui est une perversion du besoin fondamental. Quelle est la manière de... Comment peut-on jauger des limites? Ça, je ne le sais pas, puisque chaque société établit ses propres normes de ce point de vue. Mais en tout cas, il reste que ce sont des besoins fondamentaux qu'on ne peut pas, a priori, désigner comme bons ou mauvais. Ce sont des besoins qui appartiennent à l'espèce humaine comme aux autres, j'appelle des besoins du vivant.
Liberté est un mot que le rêve humain alimente. Il n'existe personne qui l'explique et personne qui ne le comprenne. Les êtres humains sont des animaux mammifères, bipèdes, qui se distinguent des autres mammifères, comme les baleines, ou bipèdes, comme la poule, principalement par deux caractéristiques. Le téléencéphale hautement développé et le pouce préhenseur. Le téléencéphale hautement développé permet aux êtres humains d'emmagasiner des informations, de les mettre en relation, de les ordonner et de les comprendre. Le pouce préhenseur permet aux êtres humains un mouvement de pince des doigts. Celui-ci, à son tour, permet une manipulation de précision. Le téléencéphale hautement développé, allié à la capacité de faire un mouvement de pince avec les doigts, donna à l'être humain la possibilité de réaliser d'innombrables améliorations sur sa planète. Entre autres, de cultiver des tomates.
Des corps, de la bricole et un de ces merdiers. Sur Radio Piquesse.